VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre la corruption en Angola. José Filomeno dos Santos, fils de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, comparaît ce lundi devant un tribunal de Luanda pour des faits de corruption. Le tout premier procès visant un membre de la famille de l'ex-maître absolu du pays. Le prévenu, ex-patron du fonds d'investissement souverain angolais, est jugé avec 3 co-accusés, dont l'ancien gouverneur de la Banque centrale du pays, Walter Philippe da Silva, pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. Le procès a lieu au tribunal suprême de Luanda. Le fils de l'ex-président José Eduardo dos Santos avait été placé en détention provisoire en septembre 2018, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire en mars dernier jusqu'à son procès. Son père a dirigé l'Angola pendant 38 ans de règne sans partage, pendant lequel il a mis l'économie du pays en coupe réglée au profit d'une poignée de ses proches. Les membres de la famille dos Santos accusent le gouvernement du nouveau président João Lourenço de les persécuter. Toujours concernant le combat anticorruption en Afrique, au Soudan du Sud, le président de l'Assemblée nationale sud-soudanaise a démissionné de ses fonctions, cédant à la pression des parlementaires qui l'accusaient d'entraver leur rôle dans la lutte contre la corruption et exigeaient depuis des semaines son départ. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la radio d'État en précisant qu'Anthony Lino Makana a renoncé à ses fonctions dimanche lors d'une réunion du parti au pouvoir à Djouba, la capitale. Tous les membres de l'Assemblée nationale, y compris ceux de son propre parti, réclamaient depuis des semaines la démission de M. Makana, en menaçant de le destituer s'il refusait de le faire. L'ex-président de l'Assemblée nationale était entre autres critiqué pour avoir empêché les parlementaires de convoquer des membres du gouvernement pour qu'ils répondent devant eux de leur gestion des affaires publiques. À Afrique de l'Ouest maintenant, le second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau aura lieu le 29 décembre. Le président sortant, José Mario Vaz, soutiendra le candidat de l'opposition, Oumaro Sissoko Embalo. Ce dernier affrontera le chef du parti dominant dans le pays, l'ex-premier ministre Domingos Simões Pereira. Jean-Roger Bion.
Nous allons soutenir sans réserve Oumaro Sissoko Embalo, a déclaré hier Eri Mané, un membre de l'entourage du président sortant, crédité de 12,41% des voix, confirmant un accord conclu samedi à Bissau en présence de messieurs Vaz et Embalo. Arrivé deuxième au premier tour avec 27,65% des voix, monsieur Embalo a déjà obtenu le ralliement des principaux ténors, comme l'opposant Nuno Gomes Nabiam, qui a réuni plus de 13% des voix. Un autre ex-premier ministre, Carlos Domingo Gomes, également récalé au premier tour avec plus de 2%, avait annoncé le 30 novembre son soutien à M. Embalo. De son côté, Domingos Simões Pereira, chef du gouvernement en 2014-2015, va compter au second tour sur les soutiens de 2 candidats malheureux au premier tour et chef de petit parti, Yaya Diallo et Idrissa Diallo. Porté par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, majoritaire, dont il a pris la tête en 2014, M. Pereira a recueilli 40,13% des voix. La campagne pour le second tour doit commencer le 13 décembre pour s'achever le 27.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant. Au Niger, 110 combattants repentis du groupe djihadiste Boko Haram réintègrent leur communauté après 3 ans de déradicalisation. Les intéressés se sont engagés le 8 décembre à ne plus renouer avec le terrorisme et à ne poser aucun acte contraire aux lois du Niger. Au reportage de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Au nom des 109 autres ex-combattants de Boko Haram, Mustapha Mamadou, la trentaine, jure sur le Coran. Il demande pardon et s'engage à ne plus prendre part à des actes terroristes et à respecter les lois de la République. Les autres se tiennent les mains et répètent ensemble avec lui devant un parterre d'autorités, dont le ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum, dans l'enceinte hautement sécurisée du centre de réinsertion socio-économique pour repentis de Goudou Maria à quelques 200 km de Diffa.
Dans ce centre, les éléments ont subi le profilage par le service central de lutte contre le terrorisme de la police nationale et les dossiers qui en ont issu ont été examinés par la justice en vue de procéder au triage conformément aux dispositions légales de notre pays. À la suite de ce triage, un premier groupe de 35 mineurs non accompagnés ayant fait l'objet de déradicalisation a été remis au ministère de la Justice. Un second groupe de 125 éléments a été soumis à la formation professionnelle après la déradicalisation. Le résultat de ce long processus de déradicalisation et de réhabilitation est aujourd'hui devant nous, avec 110 personnes prêtes à reprendre leur place dans leur communauté respective pour mener une vie normale. De ce groupe, 47 personnes sont de nationalité nigériane. Les 15 autres éléments sont prêts à la réinsertion au mois de janvier de l'année 2020.
Des certificats de sortie et des kits pour démarrer des activités génératrices de revenus selon la formation suivie ont ensuite été remis aux jeunes, parmi lesquels 8 femmes. Ce lundi 9 décembre, en principe, ils doivent être acheminés dans leur village d'origine et pour les accepter par les familles et les communautés, les autorités régionales de Difa ont fait un travail de sensibilisation en amont. Issa Lemine, gouverneur de la région de Difa.
Il ne faudrait pas que ces jeunes-là souffrent de leur passé. Ce qu'ils ont fait, ils ont regretté, ils ont renoncé. Et ils nous ont montré pendant 3 ans qu'ils ont renoncé. Ils ont accepté de faire une formation professionnelle. Donc aujourd'hui, ce qui reste, c'est de les accueillir à bras ouverts, de les considérer comme tous les autres jeunes qui sont avec nous. Donc ils vont regagner leur famille, avoir une réinsertion en famille. Ils vont retourner dans leur famille et seront assistés. Et on va veiller parce qu'on va mettre un comité de suivi et d'encadrement. Donc je pense que ça va marcher et il n'y aura pas de stigmatisation. Et des dispositions seront prises à tous les niveaux. Dans ce cadre, on a déjà fait une réunion avec tous les responsables administratifs et coutumiers de la région et chacun s'attelle à cela.
Dans la guerre contre la secte Boko Haram, les autorités nigériennes ont opté en fin de l'année 2016 pour un processus volontaire de reddition des combattants à travers une série d'appels. Les premiers à répondre, une trentaine, ont été admis dans le centre de Goudoumaria. Ils sont aujourd'hui, selon les autorités, plus de 200 hommes et femmes pris en charge par l'État et ses partenaires. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Actualité américaine maintenant, ici aux États-Unis, après 2 mois d'enquête à la Chambre des représentants du Congrès à Washington, la commission judiciaire de cette Chambre va commencer à rédiger cette semaine les chefs d'accusation visant le président Donald Trump. Les détails avec Eric Manirakiza.
La commission judiciaire commencera par entendre aujourd'hui des représentants des groupes républicains et démocrates qui présenteront chacun leur version aux antipodes des conclusions à tirer de l'enquête. Plusieurs chefs d'accusation pourraient être retenus, abus de pouvoir et corruption, entrave à la bonne marche du Congrès et entrave à la justice. Cette audition sera bidon, a tweeté Donald Trump hier. Nous avons un dossier en béton, a déclaré Jerry Nadler de la commission, affirmant que si ce dossier était présenté à un jury, un verdict de culpabilité de M. Trump serait rendu en 3 minutes chrono. Donald Trump proclame son innocence et dénonce une enquête anticonstitutionnelle, une mascarade montée à charge contre lui et refuse de coopérer. Cette nouvelle étape accélère la procédure vers le vote en séance plénière à la Chambre qui peut intervenir d'ici la fin de la semaine, a indiqué le président de la Commission, Jerry Nadler. Compte tenu de la majorité démocrate, Donald Trump deviendra certainement le 3e président de l'histoire après Andrew Johnson et Bill Clinton, mis en accusation au Congrès américain. Mais il devrait ensuite être acquitté lors du procès politique qui sera organisé au Sénat, où les républicains sont majoritaires et le soutiennent largement.
Et pour terminer, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo accueille demain mardi à Washington son homologue russe, le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov. C'est ce qu'a annoncé le département d'État. La rencontre aura lieu au lendemain de celle à Paris entre les présidents russes Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky qui doivent s'entretenir du conflit en Ukraine entre les séparatistes pro-russes et les...
Écoute ça.